Alors, maintenant, la parole est à la salle. Alors, Magali, on va prendre les trois prises de parole.
Moi, je me demandais si d'aller voir dans les commissariats l'usage qu'ils en font. Parce que, à titre d'anecdote, ça n'a rien, ça n'a aucune valeur psychologique pour les parenter. Et je suis une anecdote, mais je vois le bluff technologique dont tu parles. Pour avoir été capable de faire mon réseau à tous les pieds, et j'ai réussi à prendre des choses. Il m'a donné le numéro de tiré, et il m'a fait une enquête. Et le policier m'avait bien expliqué que c'était sa parole contre la mienne, qu'il n'y avait pas de témoin, il ne se passait rien. Et j'ai réfléchi, et je me suis dit, oui, mais là, il y avait une caméra. Et donc, je lui ai dit, il y avait une caméra, regardez si vous ne pouvez pas trouver. Donc, je suis contente de savoir que j'ai donné du bon au cœur aux gens qui travaillent là-dessus, qu'ils ont finalement vu.
Mais non, elle était cassée.
Ouais, mais non, mais justement, alors du coup, bon, ça a duré une plombe parce que l'affaire a duré sur un an, finalement. Et j'ai eu un policier qui m'a rappelé, etc., qui m'a dit qu'il avait téléphoné à la personne, et qu'il lui avait dit que c'était pas du tout, que j'avais cassé mon retour parce qu'il avait été calme, je sais pas quoi, enfin, il m'a menti. Il m'a dit, moi, je suis sûre qu'il ment. Donc, c'est poker menteur. Donc, moi, je sais, j'ai pas les, j'ai pas, j'ai effectivement la caméra. Je pense pas que je vais avoir accès au fait que c'est trop vieux, etc. Enfin, je sais pas pour quelle raison il n'a pas eu accès.
15 jours, hein, de l'officiel.
Voilà, c'est ça. Donc, comme ça a mis une plombe, effectivement, il n'a pas eu. Mais il s'en est servi pour jouer au poker menteur. On vous a vu, on a une vidéo, etc. Et apparemment, ça a marché. Donc, le gars, il s'est composé, il m'a dit, il a vu qu'il avait. Donc, est-ce que tu es allé dans un commissariat voir ce qu'en font finalement, si cette utilité n'est pas un peu justement de faire peur aux gens ou qui se sentent justement regardés, contrôlés, etc. Et donc, ça serait une utilité un peu indirecte, parce que effectivement, à mon avis, ça n'a aucune utilité réelle au sens où tu l'entends, quoi. Mais voilà, il n'y a pas une utilité comme ça.
J'avais bien une petite question. Si on prend comme postulat qu'il ne s'agit pas à combattre en sécurité, donc le sentiment d'insécurité, est-ce que c'est au moins efficace à cet égard-là? Est-ce que quand les gens voient des caméras s'installer dans leur ville, ils se sentent moins en insécurité? Et deuxièmement, si le second postulat, c'est que ça sert à construire du capital politique, est-ce que ça sert en effet à construire du capital politique? Est-ce que les gens revotent pour quelqu'un qui a sécurisé leur ville s'ils le perçoivent comme tel? Ça, c'est parce que si ce n'est pas les objectifs affichés, il doit quand même y avoir des objectifs derrière ces politiques-là. Et la deuxième élément, c'est qu'il n'y aurait pas de parallèle à faire justement avec ce qui se fait aussi dans le monde anglo-saxon, dans la sécurité civile, mais plutôt dans les border studies, où notamment la question de la sécurisation des frontières, la construction de murs, de barrières, etc., et la sécurisation de ces barrières. Elle est très documentée, dans le sens où ça ne permet pas de faire que les migrants passent moins, ce que ça fait, c'est que ça nourrit les réseaux passables de plus en plus criminels, et ça fait que de plus en plus de migrants meurent en laissant se passer. Et là, on a encore un effet encore plus exceptionnel, parce qu'au-delà même de ne pas combattre contre ce qui serait la délinquance, ça la produirait, quoi. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas de parallèle à faire avec ces autres éléments où la logique de construction de capital politique est telle qu'au combien même on a des preuves documentées par X et Z dans les travaux scientifiques que ça ne marche pas, et bien. On continue en fait. Il y a une ignorance, en tout cas dans les politiques migratoires, on voit très bien qu'il y a une ignorance très nette entre les politiques et ce que produit la sociologie, la science politique et les différentes sciences sur le sujet, qui disent non, en fait ça ne marche pas. Combien même on prend comme objectif les objectifs que vous affichez qui sont on ne veut pas que les migrants passent. Combien même ce serait les objectifs, et bien ça ne marche pas.
Dernière question. Oui, je me demandais en fait sur ce. Vous évoquiez au début le glissement rhétorique, sémantique de vidéosurveillance à vidéoprotection. Alors, en dehors de la dimension féminisante peut-être du dispositif de contrôle, est-ce que ça dit pas aussi finalement beaucoup des conditions de production et des logiques qui sont à l'œuvre dans la mise en place de ces dispositifs? C'est-à-dire finalement, en termes d'action publique, qui sont les publics de ce dispositif, à qui est-ce que c'est destiné? Est-ce que c'est pas plus à ceux qui voient le dispositif que à ceux qui sont supposés être vus? Et du coup, la question que qui m'anime, c'est vraiment Est-ce que les gens réclament vraiment de la vidéosurveillance ou est-ce que, parce que moi j'ai travaillé un peu sur les courriers de plainte qui sont adressés à la mairie, notamment à la mairie de Lyon, au moment où Gérard Collomb a pris la mairie, mais avant même avec Raymond Barre, et on voit toute une série de courriers de commerçants lyonnais par exemple qui disent ben voilà, moi j'ai un groupe de personnes devant mon magasin et qui m'ont piqué. Et il y a une petite note de Raymond Barre qui dit ben, il faut répondre à ce courrier en particulier rapidement, etc. Et ils vont mettre en place un dispositif effectivement de caméra. Donc on voit la perméabilité, mais dans un contexte politique bien particulier aussi, de tensions où Raymond Barre ne se représente pas, où il y a une lutte pour le leadership, etc., qui les rend perméables à ces interpellations. Et de la même manière, j'allais dire que vous évoquiez la variable partisane. Je ne suis pas sûre que la variable partisane, effectivement, elle soit pertinente, parce qu'on voit qu'on peut avoir un maire PS dans une ville, alors moi je pense au Cadren aussi sur lequel j'ai travaillé, qui à un moment donné, enfin, est très clair, il ne veut pas de vidéosurveillance, etc. Donc c'était abusé, et l'un des qui laisse les mandats abandonne, il a un successeur qui a une légitimité électorale plus faible et qui du coup est plus perméable à des événements spectaculaires, plus fragiles finalement, et pour lequel la question de la vidéosurveillance apparaît comme un outil pour maîtriser, désamorcer un certain nombre de crises. Voilà, donc je voulais savoir si vous avez des informations sur qui sont finalement les demandeurs de vidéosurveillance, même si c'est pas ça, mais et quel est le contenu réel finalement de ces demandes, et sur la question des conditions de perméabilité aussi finalement des acteurs politiques à ces revendications.
Voilà, continuons à prendre les questions.
Non, déjà, vous remercier pour cet exposé très riche et très clair, y compris sur la démarche de l'enquête. Je remercie tous. Il y a des étudiants dans la salle. C'est important de rappeler tout ça. Moi, j'avais une question sur ce que ça produit sur le changement de l'orientation, les orientations de la politique publique dans chacune de ces villes et de la politique publique en général. Puisque tu rappelais bien que beaucoup d'argent a été donné, de la part de l'État, de la part de la région, etc., qu'on se dit assez vite, eh bien cet argent donné pour cela, à cela, est sans doute amputé à d'autres secteurs. Est-ce que tu as pu documenter et montrer en quoi, eh bien, ça réduisait énormément l'argent, le budget donné aux politiques sociales, tu le disais, à la prévention, etc. Et que ce soit documenté, parce que je sais que pour Marseille, ça a été le cas. C'est-à-dire que l'argent donné à la vidéosurveillance, forcément, eh bien, c'est pas d'argent donné en plus, mais c'est de l'argent enlevé à quoi ? À quel secteur ? Donc voilà, c'était. Est-ce que tu le documentes dans le livre ?
Ok.
Moi, j'interrogeais un peu dans le sens de la visibilité potentielle de l'État public, pour les contre-balancer des argumentations, dans le sens où vous avez évoqué, de toute façon, la vidéosurveillance, ça ne marche pas. Ça, pour moi, ce n'est pas aussi tombé dans le langage courant, dans l'imaginaire courant, dans le sens de toute façon, la vidéosurveillance, soit elle ne filme pas, soit les personnes derrière, soit ça ne sert à rien, et du coup, c'est tellement dans le langage courant que la capacité des acteurs pour mobiliser une unité alternative la forme de la situation, la prévention, et donc une logique argumentative qui est bien difficile à évaluer après par la suite, parce que comment on évalue une ça n'a pas marché dans cette vie, mais quand cette vie c'est pas pire aussi parce qu'il y a des erreurs. Par contre, pour la plus de la queue, quelque part, mais bon, déjà, c'est une logique argumentative qui est bien difficile à faire. C'est à mon sens, c'est pas difficile à faire.
Juste en complément, je me demandais si tu avais des éléments sur ce qu'il en est de la vidéosurveillance dans des espaces locaux appartenant à des systèmes institutionnels que la France. Parce qu'en France, le système politique local est très peu responsable, finalement, politiquement, au jour le jour, par rapport à ses mandants. Et ça a beaucoup d'influence sur le fait qu'il n'y a pas à rendre compte, que l'évaluation, il s'en moque, etc. Est-ce qu'on a des éléments sur la vidéosurveillance et les politiques de vidéosurveillance dans des... Dans, par exemple, tu citais la politique de John Major et le fait qu'il avait, il avait d'emblée budgété l'évaluation du site. Qu'en est-il comment ça s'est développé finalement en Bretagne? Parce que cette absence de congruence, cette absence de pertinence, cette absence de questionnement des politiques menées par l'efficacité, on le trouve dans plein d'autres espaces, de domaines, secteurs des politiques locales. Et ça renvoie aussi à la façon dont les budgets locaux sont négociés, affectés, etc. Donc ça renvoie en fait à un cadre institutionnel bien plus large que ce secteur de la vidéosurveillance. Est-ce que tu as des éléments là-dessus?
Ok, merci pour de super questions. Hein. J'ai jamais rencontré un cas équivalent à celui que tu me racontes. J'ai interviewé un policier qui me dit voilà, je me suis servi pour faire juste un coup de pression alors qu'en fait j'avais rien, machin. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, ne l'ayant jamais rencontré, je pense que ça reste vraiment relativement incident. Il y a des grosses questions. Alors, j'ai des éléments, mais il y en a certains où je n'ai pas de réponse finale. Quel impact tout ça a sur le sentiment d'insécurité? C'est une très bonne question. Encore faut-il s'entendre pour définir ce qu'est le sentiment d'insécurité. Alors, classiquement, dans la littérature sociologique sur la délinquance, on essaie de distinguer le versant des préoccupations et le versant des peurs, le versant des opinions et le versant du ressenti. Hein. Donc l'opinion, c'est le sentiment d'insécurité en tant qu'opinion globale, du genre réponse à une question de sondage, considérez-vous que la sécurité est un problème majeur en France, bon, ce qui n'implique pas du tout la personne, et une opinion très politisée, etc. Et puis le ressenti, c'est vous personnellement, est-ce que vous arrivez d'avoir peur de sortir le soir, chose comme ça. Alors, il y a des connexions dans les sondages, il y a des connexions évidentes avec le sentiment de sécurité comme opinion, ça c'est sûr, avec l'aspect de politisation que ça a, qui est une raison aussi pour laquelle néanmoins les choses restent aussi un peu politisées, c'est-à-dire que ça correspond aussi à la politisation partielle des clientèles politiques qu'il y a derrière, dans l'électorat. Hein. En gros, plus les gens dans les sondages se classent eux-mêmes politiquement à droite, plus ils jugent que la sécurité est une question importante, et plus dans les enquêtes, ils privilégient les options répressives aux options préventives, c'est des choses qui sont assez classiques. La vidéosurveillance étant considérée comme d'emblée, mais ça fait partie du biais de ces enquêtes d'ailleurs, comme une option répressive. Parce qu'elle est présentée comme telle. Voilà. Alors, ça c'est mon premier élément de réponse. Deuxième élément, ça rejoint l'autre question sur qui interpelle les élus. Dans toutes les villes où j'ai travaillé, il y a effectivement une partie de la population qui expriment, il y a comme partout la majorité des gens qui ne parlent pas, bien sûr, qui sont parlés par les autres. Mais il y a une petite partie qui exprime à la fois un sentiment d'insécurité et des revendications de réponse de type sécuritaire. Donc c'est là qu'on trouve les artisans autres que élus directs, mais qui sont la clientèle directe, ceux qui sont présents aux réunions publiques des élus, c'est vraiment le premier cercle, on va dire, autour des élus, et qui sont alors quoi? On va retrouver d'abord c'est une population globalement âgée, on va dire, on va trouver là. Dans toutes les villes où j'ai pu voir ça, je trouve presque toujours, pas que, hein, mais immanquablement, un ancien policier, un ancien militaire, un machin, qui est le qu'on va retrouver également lorsqu'il existe comme étant l'animateur du réseau voisin vigilant, du machin, le type qui a une disposition à être un peu le shérif du coin, quoi. Voilà, on le retrouve là, c'est sûr. Où on retrouve juste des personnes âgées qui ont une vision du monde assez catastrophique, qui se sentent vraiment en danger, et on retrouve souvent, mais pas toujours, mais on retrouve souvent lorsque c'est l'orientation, je pense que c'est pour des raisons politiques que ce n'est pas toujours, on retrouve souvent, quand ça colle politiquement, des représentants de l'association des commerçants du centre-ville, qui se sent le plus exposé à un certain nombre de vols en particulier. Voilà. Ça c'est relativement c'est des constants et qui lui exprime un sentiment d'insécurité différent. Ça lui prétend exprimer, prétend traduire son exposition objective au risque. Voilà. Ce qui est à moitié vrai seulement. Voilà, parce qu'il y a bien sûr des vols dans les commerces, c'est une des types de délinquance des voies publiques qu'on rencontre le plus. Voies publiques parce qu'il s'agit de commerces qui ont de la devanture sur la voie publique. Mais c'est absolument pas par ailleurs nécessairement le type de victimation le plus fréquent sur une commune donnée, des consorts de. Voilà. Donc ça c'est vrai, et ça recoupe la question de. Donc de qui interpelle les élus. Et bien sûr, j'ai vu, alors pas avec tous, j'ai pas pu le faire à Marseille par exemple, ça dépend du bon vouloir aussi des élus, mais dans la petite et la moyenne ville, j'ai pu aussi discuter avec interviewer longuement, même plusieurs fois dans la petite ville, le maire, parler des courriers de plainte qu'il reçoit. Je donne quelques exemples d'ailleurs, dans le cas de la petite ville, du maire lui-même se moquant de jusqu'où peuvent aller certains administrés, la dame qui réclame une caméra devant chez elle parce que sa voiture. A été rayé, mais le maire qui ajoute, je suis allé sur place, tellement insisté, machin, et on a constaté qu'il y avait la place dans son jardin pour la rentrer, sa voiture dans son jardin. Mais elle disait que si elle faisait pas, après, si elle faisait ça, elle avait moins de place pour sortir sa poubelle, son chien, son. Non, lui-même a rigolé, quoi. Donc, je vois bien ce système-là, et ces élus qui passent une partie non négligeable de leur matinée à répondre à tous les courriers, machin, avec des petits mots, ouais, je vois très bien cette chose-là, je l'ai vu. Fonctionner à Aix-en-Provence aussi dans notre recherche. Donc oui, bien sûr, ça joue, et c'est, je le disais, c'est ce qui contribue, à mon sens, à maintenir cette dimension politisée. C'est-à-dire que ces gens qui interpellent, c'est pas systématique, mais à mon sens, de ce que j'ai pu voir, une bonne partie de ces gens qui interpellent, que ce soit par le courrier, par l'interpellation sur le marché quand il fait sa tournée pour serrer les mains, le machin, des petits messages qu'on fait remonter par tel fonctionnaire de la municipalité, bon, tous les modes d'interpellation, sont quand même principalement alimentés par les clientèles politiques, par des gens qui sont investis dans, je vais pas juger de la façon dont ils le sont, mais qui sont d'une certaine manière investis dans la vie publique. Voilà. La plupart des autres, qui sont pourtant ni plus ni moins victimes, ou peut-être même plus, se taisent en fait, sollicitent peu, en tout cas le canal politique, sollicitent peu les élus. Donc ça contribue, à mon avis, ça, à maintenir une certaine poétisation des choses. Bon. J'y avais pas pensé, c'est une bonne analogie, la comparaison avec les border studies, j'y penserai, c'est une bonne, c'est effectivement un bon point de comparaison. Alors, il y a deux cas où je peux répondre un peu sur les budgets. Voilà. C'est toujours pareil, c'est-à-dire à Marseille, j'ai dû arracher les données, quoi, hein, vraiment. Donc j'ai pu rentrer vraiment là où c'était sécurité, parce que c'était la mission. Dans les autres villes, à force de traîner, de connaître les gens, d'être sur le terrain, tu finissais par fureter et choper plein d'autres infos que dans ta truc, quoi. Hein. Et ben, vraiment attraper beaucoup d'autres infos. À Marseille, il ne fallait pas trop mettre le pas de côté, quoi. Donc j'avais le droit de faire ça. Je fasse une demande écrite si je voulais un autre truc, puis une demande écrite, un machin. Bon, voilà, c'était plus compliqué. Donc par exemple, non, un budget complet rétro annuel avec suffisamment de détails dans la ligne budgétaire pour voir bouger, pour voir se déplacer certaines masses, je ne l'ai pas eu. Par contre, dans les deux autres villes, oui, j'ai pu regarder. J'ai pu montrer qu'effectivement, alors il y a une des villes où c'est simplement, il existait déjà un budget prévention sécurité. C'est la moyenne ville parce qu'il y a déjà un partenariat, il y a déjà un contrat, donc c'était une ligne budgétaire. Donc là, le déplacement a eu lieu au sein de la ligne budgétaire. Donc ce qu'on peut dire, ça ne s'est pas déplacé d'un besoin d'aide sociale, par exemple, vers un besoin sécuritaire. Par contre, ça a pu se déplacer d'une action de prévention vers une action plus sécuritaire, par exemple, au sein du même budget. Voilà. Quant à la petite ville qui n'avait pas encore de ligne budgétaire spécifique pour ça, puisqu'elle était en train de mettre en place le truc, ben là, je l'ai d'ailleurs évoqué, je crois, tout à l'heure, j'ai montré qu'effectivement, ben, il y a des carences béantes dans la politique jeunesse, la politique sociale de la ville, hein, parce qu'il n'y a rien, par exemple, pendant les congés, pour occuper un minimum les jeunes à l'âge de la vie, où ils sont, par définition, c'est normal, et c'est très sain, plus agité. Là, très clairement, oui, l'argent qui est mis là à un moment donné, il empêche. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au même moment où je démarre mon étude dans cette petite ville, la mairie a aussi commandé un diagnostic des besoins sociaux à un cabinet d'audit qui fait aussi de la formation travail social assez connu dans la région, je ne citerai pas. Et bizarrement, il a mis trois fois plus de temps que moi à rendre son étude. Donc, quand je rends la mienne, on ne connaît pas le sien. Et à la fin même de l'année où j'aurai, moi je rends en juillet, à la fin de l'année on ne connaîtra même pas toujours le sien, ce qui fait que, bon après j'ai pas pu retourner encore des années après, j'ai pas pu suivre tous ces terrains dans la durée puisque je travaille maintenant sur d'autres trucs, quoi. Bon, c'était voilà, pour moi, c'est un moment, puis je passe à autre chose. Après, je crois que j'ai compris le truc, et ça va me saouler si je vois trop. Mais donc, j'ai pas pu voir au bout de 2 ans ou 3 ans. Voilà. Mais j'ai trouvé quand même très frappant que le diagnostic sécuritaire, qui pourtant en termes d'accès aux données est a priori plus difficile à faire que celui que faisaient les autres, dont je vois très bien en quoi ça consiste, hein, me semble-t-il, beaucoup plus facile et rapide. Donc, lui, il était vraiment arrivé beaucoup plus tard. Ça me paraît un indicateur quand même de ça. Et puis c'est un des grands avantages encore une fois de la vidéo, quoi. C'est un truc concret. Le mec peut dire regardez la sécurité, hop, elle est là. C'est pas des réunions, des partenariats, on n'a pas besoin de comprendre la psychosociologie du fonctionnement, c'est là, c'est concret, c'est vide. Bon. Ce qui pose néanmoins, comment dire. Alors, est-ce que pour revenir, je terminerai sur, après sur les comparaisons. Mais est-ce que ça marche vraiment politiquement, et pour comprendre aussi l'impact éventuel que ça a sur le sentiment d'insécurité. Alors, il y a un petit passage du livre, vous avez lu, où je discute du peu qu'on a d'enquête d'opinion, sur des sondages qu'on a sur l'acceptabilité sociale, ils disent dans les programmes européens ou de l'ANR qui ont financé jamais d'études sur l'évaluation de la surveillance, de la vidéosurveillance, mais des études sur l'acceptabilité sociale de l'ANR et de l'Union Européenne. Hein. Ça dit quelque chose, certainement. Hein. Jamais d'évaluation. L'acceptabilité sociale. Ce que je dis, non, tant pis pour les copains qui ne feraient pas au budget recherche de l'Union Européenne et de l'ANR, mais c'est la réalité. Hein. C'est quand même très problématique, me semble-t-il. Mais, donc on a quelques sondages d'opinion, mais qui sont biaisés par le côté oui-non, le côté politisé de la chose, etc. J'en ai trouvé que deux exemples de véritables débats publics. J'en cite un en détail, je crois, dans le livre. Débat public où un maire qui envisage deux fait une consultation préalable, remet une documentation aux gens qui viennent à la réunion qui inclut une budgétisation précise de la chose. Je ne peux citer que deux cas, dans toutes les revues presse que j'ai fait pendant des années, là, avec des débordés, des milliers d'exemples, je ne peux citer que deux cas. Et dans les deux cas, dans un cas, le projet aboutit à réduire à la portion congrue ce qui était prévu, dans l'autre, il est annulé. C'est intéressant. Par rapport à des discours qui matraquent en permanence, que de toute façon, la population demande ça, blablabla. Oui, elle demande ça, mais elle n'en sait rien. On lui pose une question de principe. Es-tu pour qu'on renforce la sécurité ou contre plutôt pour, a priori, hein. Voilà, c'est ça le sondage en fait. Par contre, on remet un dossier, on dit c'est ça, ça va coûter tant, éventuellement donc du coup l'argent, comme on n'en a pas plus, on l'enlèvera à tel endroit pour le mettre là, machin. Les gens disent, ah bah du coup, bah non, alors. C'est quand même, en termes de démocratie, un peu intéressant, hein. Bon. Donc c'est ça que j'ai effectivement constaté. Alors, oui, il y a des pays où la banalité que je viens, enfin ce que je viens de dire est plus une banalité, alors qu'en France ça paraît le miracle démocratique de 2-3 endroits, il y a des pays où c'est plus ordinaire, y compris de se demander si ça marche ou pas, on l'évalue, on dépense pour rien d'argent ou pas, et le lecteur a un minimum le droit de savoir et de sanctionner éventuellement là-dessus. Par rapport effectivement à un système français où les comptes rendus, non, c'est rien, et le régime municipal est un hyper présidentialisme hallucinant en fait, dont on parle jamais, ce qui est à mon avis un des problèmes de la démocratie en France. J'ai trois types d'exemples en tête qui proviennent d'Angleterre, du Canada et des États-Unis. En Angleterre, c'est le seul endroit où j'ai vu des villes et des maires de villes, équivalent, qui dit bon, preuve est faite que ça ne nous sert pas à grand chose. On va pas se lancer dans des grandes opérations, on va pas démonter, ça coûte cher, bidule. On va juste arrêter de payer la maintenance, et puis ma foi, hein, tout ça va mourir de sa belle mort. Voilà, on en laissera juste aux quelques endroits stratégiques qu'on a décidé avec le patron de la police municipale, et puis le reste, on arrête de les entretenir. Voilà. Et on réduit la facture petit à petit. C'est quand même bon. Au Canada, c'est le seul endroit où j'ai trouvé, mais c'est des coupures de presse, ça, hein, c'est ma revue de presse Google, donc je ne suis pas sociologue du machin, donc je donne juste ce que j'ai comme info. Au Canada, c'est le seul endroit où, un peu plus symboliquement, j'ai trouvé un exemple d'une ville qui ostensiblement démonte son système, voilà, en disant on s'est trompé. Une ville, une petite ville. Non, pas en Saskatchewan, bon, je sais plus. Là-haut dans la neige et les sapins. Et aux États-Unis, alors j'ai trouvé ni l'un ni l'autre, ni les villes qui abandonnent, en tout cas qui font savoir qu'elles ont abandonné, encore moins qui symboliquement, avec porte et fracas, disent que c'est pas la bonne sécurité. Je pense que les choses sont quand même suffisamment politisées pour que ça marche pas comme ça. Par contre, c'est quand même, à ma connaissance, l'endroit où on peut et ça se voit d'ailleurs dans les études qui sont publiées dans la revue scientifique, l'endroit où on peut le plus facilement accéder aux données, quoi. Parce que moi, je vois la galère que c'est pour mettre la main sur ces choses. La préfecture de police de Marseille, j'ai quand même dû monter patte blanche pendant plusieurs années, et grâce à l'observatoire, pour à la fin, qu'on me donne sous la main en disant attention, l'utilisation, bidule, machin, mais bon, je ne suis même pas sûr que j'aurais pu le. Bon, j'ai mis, hein. Mais pour des données qu'on trouve en trois clics sur Internet, dans certains sujets aux États-Unis. Donc là, je dirais qu'il n'y a peut-être pas la culture que je trouve plus anglaise au fond qu'américaine, si tant est qu'on puisse faire ce genre de généralité. Mais par contre, voilà, je trouve beaucoup de données dans l'espace public, et du coup, des travaux de recherche. Ben voilà, l'équipe, ils ont pu faire un article en restant au bureau, quoi. Quand moi j'ai galéré pendant vraiment longtemps sur le terrain pour choper les trucs, quoi. Ce qui produit de toute façon une possibilité de transparence, un niveau de connaissance. Voilà. Et par contre, comme mes alertes étaient quand même principalement en langue française, j'ai pas beaucoup en fait, d'infos sur les villes américaines et du Canada anglophone. Quant à la Belgique et la Suisse, trop peu de choses pour en parler. Et je dirais un système qui, globalement, ne me semble pas très différent du système français, pour autant que je sache. J'ai à peu près...
D'autres interventions, d'autres questions ?
Je n'ai pas répondu à votre question, vous. Oui, je viens. Oui, c'est une bonne question, bien sûr. La seule chose que. Pour résumer, qui n'est pas chiffrable, au fond, bien sûr, comme toujours, c'est la prévention et la dissuasion. D'où d'ailleurs le dilemme classique dans un monde où il faut toujours chiffrer pour avoir l'air sérieux. Je me rappelle, ça remonte à 3-4 ans maintenant, une grande fédération de travailleurs sociaux qui m'invite en disant voilà, on est un peu en panique, nos financeurs publics rechignent de plus en plus, etc. Est-ce que vous pouvez nous aider à mettre au point un discours un peu punchy là, pour les financements et machin. En face de nous, on a des gens qui nous disent mettez des caméras ou des voisins vigilants, ça fait reculer de 40% les cambriolages, ce qui est le marketing de cette société privée qui vend le logo, ça fait reculer de 40% les cambriolages. Les études qui montrent ça n'existent pas. C'est juste un mec qui a dit ça très bien, ça, avec 40. Bon, voilà. Donc il disait, aidez-nous à mettre en place un truc du genre, la prévention enlève 30% des trucs l'année suivante. C'est évidemment juste pas possible. Personne ne peut parler ce qui serait arrivé ou pas si, machin, bon. Non. Donc oui, bien sûr, le dernier argument qui peut rester chez certains, c'est la dissuasion. Mais étrangement, je l'ai peu rencontré quand même. Hein. Je l'ai peu rencontré. Les professionnels, policiers, gendarmes, eux, ils disent pas ça. Eux, ils disent clairement d'expérience, la meilleure de dissuasion, c'est la présence sur le terrain. Ça, je parle des gens de terrain, hein, pas des gens de bureau. Mais les gens de terrain, ils n'ont aucun doute là-dessus. Hein. Quelles que soient les procédures qu'ils ont fait avec des images par ailleurs dans telle ou telle enquête, ils n'ont aucun doute là-dessus. Oui, j'ai peu rencontré de gens qui exploitent cet argument. Voilà. Ce qui fait que du coup, j'en ai pas dit beaucoup plus que le fait que oui, par définition, non, il n'y a pas d'études. Alors oui, on pourrait peut-être essayer, compliqué, imaginer monter une enquête en population générale sur les réactions ordinaires à la présence de la vidéo, avec une question demandant aux gens si par ailleurs ils ont commis un jour un délit, histoire de voir les différences entre... Voilà, on peut, tout est possible, hein, bien sûr, tout est possible et légitime. Enfin, voilà, je ne me suis jamais senti non plus de mobiliser toute l'énergie et l'argent que peut être une enquête pour cette question-là. Donc j'avoue que j'ai pas la réponse ultime là-dessus, bien sûr.
Je commence ma blague, je n'étais pas très gentil avec les sociologues français. Imagine que la vidéo sur l'air n'existe plus, on n'aurait pas eu de voyeur, et on n'aurait pas une série pour travailler. Bon, au final, moi je me suis régalé à content sur l'importance de la sociologie du travail, finalement. L'ennui des surveillants, le pensée de l'administratif, si on ne regarde pas, on ne comprend pas, si on ne prend pas le temps de regarder derrière. Les développeurs de la vidéo-surveillance, il faut en faire l'histoire, la reconversion après la vie d'Internet, qui est une erreur qui devait se recaser dans un secteur, le métier d'élu, qui est occupé à sa réélection et qui cherche des sujets sur lesquels il y a un retour sur investissement, quand on a travaillé sur la République coopération romaine, on avait bien vu combien les élus ont dit oh, je ne vais pas sur cette affaire, c'est le retour à 20 ans, il n'y a rien à faire avec ça. Là, vous installez des caméras, vous êtes débarqué à côté des écrans, vous avez une dramatisation facile, vous avez des formes de retour. Et donc, un but social du travail de tous ces acteurs importe beaucoup. Même remarque sur l'analyse économique du secteur, on est quand même suscité du monde pour l'après-guerre, immédiatement pendant la guerre, immédiatement après-guerre. Les acteurs que tu as cités, c'est Thalès, ça prend, c'est dans notre région, le pôle de compétitivité SCL. Donc, une politique publique de soutien à des activités militaires, on est bons vendeurs, mais il faut quand même que ça bosse tout le temps, et c'est pas mal d'avoir une assurance qu'on va pouvoir rentabiliser cette affaire-là au quotidien, qu'on aura une pression, un budget infiniment déployé, parce qu'il n'y a pas de concurrence internationale, les collectivités territoriales, elles vont acheter français, c'est du marché captif, donc on est dans une politique industrielle de soutien à un secteur, 2013, que les Sarkozy se lancent là-dedans, en disant, bon, on va mettre de l'argent pour garder à quel moment. C'est-à-dire, au moment où on dit aux collectivités territoriales, on a une contrainte budgétaire, l'État français ne veut plus dépenser trop, il essaye de le faire faire par les collectivités locales, qui vont s'endetter. Et les collectivités locales, elles viennent récupérer de la taxe pro, des autres, et d'abandonner de la taxe pro, il faut le compenser. Ben, il va le compenser en disant, j'aide, je soutiens sur des activités. Donc finalement, j'ai un intérêt en termes de politique économique. Donc voilà, politique à l'adresse des communes, je trouve que c'est une analyse indispensable pour le faire. Pour ce qui est des politiques, du comportement des élus, qu'est-ce qui va faire que ça passe bien autour des élus, la pression de conformité, la méconnaissance, la crédibilité des élus. Moi, je rajoute deux choses, à mon sens, enfin, une piste question. Il me semble qu'il y a la proximité sociale entre élus et développeurs de ce secteur. Il faudrait voir s'il n'y a pas sur les mêmes voies. En tout cas, quand dans la tête de Vincent Bâtiment, on voit le développement d'une autre activité, mais les parcs solaires, on a vu des choses dans ce niveau-là. Et deux, l'envie de plaire à la police, l'envie de plaire au préfet. Quand on est sans cesse sous contrôle du préfet pour ses dépenses budgétaires, il y a quand même quelque chose de l'ordre de regardons comment ils travaillent, comment ils travaillent entier, comment ils travaillent ensemble. C'est plus facile de faire passer cette affaire-là, à mon avis. Alors, moi, je termine peut-être avec quelques éléments de choses qui m'ont intrigué, sur lesquelles j'ai plus de mal à me situer. Tu as dit tout à l'heure le grand ennui dans les salles de surveillance des travailleurs. Moi, je l'ai connu dans un autre univers, hein, celui du risque nucléaire. Et nous, dans sa centrale nucléaire, on s'emmerde à la fin de l'accident. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais on a donc des dispositifs qui disent il faut acquitter des alarmes, il faut faire un certain nombre d'opérations, parce que c'est un souci pour les managers de ce secteur de se dire. S'ils s'ennuient, s'ils ne font pas gaffe, on va finir par faire péter la centrale. Donc, comment on fait? Donc, ça vaudrait le coup d'aller creuser un petit peu cette.
Donc, des vidéos qui surveillent
des terrains de sécurité, qui ne s'endorment pas. Voilà. Donc, sur la SNCF, c'est le mouchard sur le volant, il ne faut pas relâcher le volant. Donc, quelles sont les formes de travail plus fin encore qu'on peut faire là-dessus? Deuxième remarque m'a bien intrigué sur. Bon, la focalisation du dramatisé, hein, c'est plus agréable sur le cortège en voiture, c'est plus beau à regarder, donc on est passionné par ça. Bon, peut-être que ça peut être des pistes intéressantes de à rattacher. Mais j'aime bien l'idée de tes provocations normales, au sens de Castanier qui parlait du chahut normal, du chahut anomique. Il y avait des provocations normales, des petits jeunes de la place de la mairie devant la caméra. Donc, est-ce qu'on a quelque chose qui a normalisé le chahut grâce à ce nouveau dispositif? Sans prof, il n'y a pas de chahut normal. Donc il faut peut-être une caméra de surveillance pour que le chahut ne soit que normal. Donc, c'était des pistes qui me sont venues. Et puis il y a une chose que tu as évoquée, peu, la reconnaissance faciale, qui me semblait, quand tu as annoncé les drones, moi je croyais que tu avais annoncé la reconnaissance faciale. Donc je voudrais bien savoir comment on gère cette affaire-là, qui ose mettre en avant
aux élus, mais demain, j'aurai la tête de toutes les bobines des noms sur toutes les bobines. Et là, ça va marcher, pour l'instant, ça ne sert à rien. Mais demain, ça servira. Est-ce que quelqu'un tient le discours? Et est-ce qu'il n'ose pas le tenir? Parce que si ça se diffuse dans la population, ça peut être mal vu, on ne supporte pas mal le compteur Linky qui va savoir tout ce que je fais chez moi, à quelle heure je me couche, etc. Donc je supporte mal l'idée qu'on ait bloqué mon visage. Je ne sais pas si on a des éléments. En tout cas, merci beaucoup pour l'exposé.
Est-ce qu'avant de répondre, il y a quelqu'un d'autre? Je vais poser une question.
Termine là-dessus, d'accord. Ben, je vais terminer sur les deux choses. Alors, la plus simple, après les élus, c'est un peu plus long. La reconnaissance faciale, alors, c'est de fait le truc là depuis ces deux dernières années. C'est la chose actuellement en plein boom. Parce que ça permet, un, d'apporter un supplément encore de promo pour ceux qui ne sont pas encore dans le système. Deux, de relancer et renouveler le marché de ceux qui sont déjà dans le système. En gros, de toute façon, l'idée dans ce business-là, bon, comme dans d'autres, hein, dans le business plan, il est prévu de repasser régulièrement, voire pour vendre le modèle suivant, quoi. Donc c'est déjà la grosse chose. Alors, effectivement, les gens s'en vantent moins. C'est-à-dire que c'est présenté comme un mal à presse. Ça a été fait à Marseille, c'est fait maintenant depuis un an et demi. Mais quand on voit la chronologie de la chose, autant le premier système de vidéo, il est annoncé en fanfare, même bien avant que ce soit opérationnel. Autant celui-là, il est quand même annoncé soit juste avant, soit un peu après. Enfin, les gens avaient un peu moins fiers d'annoncer le truc. Bon, je pense que c'est pour les raisons que tu suggères, bien sûr. C'est qu'il est potentiellement beaucoup plus attentatoire à la vie privée. Il est potentiellement, il suppose, derrière d'amener une logique de fichage, etc. Et que c'est moins facile politiquement à défendre que juste, n'ayez peur de rien, vous n'avez rien à vous reprocher, c'est pour surveiller ceux qui pourraient vous attaquer. Voilà, c'est beaucoup plus difficile à argumenter. Donc je pense effectivement que c'est pour ça. Mais il est déjà présent. Alors oui, j'ai un peu tout accéléré à la fin, mais dans le bouquin, dans les conclusions, c'est un des trucs. Alors voilà, l'étape actuelle, c'est ça. Et la prochaine, c'est les drones, les deux qui sont annoncés. Mais sachant que l'étape actuelle, en fait, mais comme toujours dans le business, technologiquement, elle est au point depuis longtemps. C'est juste, sauf qu'au départ, elle est prévue pour des sites particuliers. Elle est en particulier développée après le 11 septembre 2001 dans les aéroports, dans tous les grands aéroports américains, et avec des évaluations, des évaluations qui ont déjà un paquet d'années, qui montrent déjà qu'à l'époque, c'est surtout la détection des mouvements de foule, des mouvements imprévus. C'est pas encore les petits points de visage qu'on va connecter à un truc qui sort. Voilà. Ça, c'est la deuxième étape de la reconnaissance. Elle-même a deux grandes étapes technologiques. La première, c'était la reconnaissance des mouvements suspects. L'idée, c'était que l'opérateur qui est devant l'écran, au bout d'un moment, il ne voit plus rien, donc il faut qu'on lui envoie une petite alerte parce que ça bouge de manière non prévue. Voilà. C'est pas juste la voiture qui suit sa file, les personnes qui marchent. Bon. Le résultat, c'est que dans les aéroports, donc certains prétendaient qu'on allait remplacer les agents, les physionomistes et les machins par ça. Bon, le résultat, c'est que ça montrait que ce système passait son temps à générer des fausses alertes. Parce que quand des gens se mettent à courir dans un aéroport, ben, c'est pas qu'ils veulent agresser quelqu'un, c'est qu'ils ont peur de louper leur avion, etc. Bon, voilà. Donc ils ont laissé tomber de ce truc-là. D'où la deuxième phase après qu'il y a eu, qui était technologiquement, plus compliquée, qui est cette question de reconnaissance faciale qui suppose d'être connecté aussi avec des fichiers. Alors, dont le grand lieu de développement actuel, donc qui pose des soucis je pense, c'est pour ça qu'il est plus fait que vanté, contrairement à toutes les autres étapes, celui-là est plus grand. C'est peut-être pour ça que il y a apparemment quelques saisines et plaintes en cours. On va voir juridiquement s'il y a des limites qui sont posées à ça ou pas. Parce que par ailleurs, l'endroit du monde où ça marche le mieux, c'est la Chine. Et parce qu'il est connecté à un système de fichage systématique et généralisé de la population. Donc, voilà. Mais tu as raison d'y insister. Et moi-même, quand j'ai terminé le livre, je me suis dit que je n'y avais pas insisté. Au sens où j'aurais dû faire retour avec ce que je dis aussi du rôle citoyen des associations, par exemple, ou voilà.
Bon. Et sur un côté, la sociologie, parce que les sociologues ont été remarqués pour accompagner ces mouvements-là. Je me rappelle avoir été référé sur un article qui parlait de ces histoires. Donc, ce serait marrant de voir que la sociologie peut faire la
suite. Parfaitement. Bah, c'est sûr. La NR finance, hein, donc c'est pas la raison qu'il n'y ait pas de sociologue qui ait répondu à des machins. Hein, bon. No comment. Alors, sur les motivations des élus, là c'est simplement parce que je suis passé vite, mais les trois choses que tu cites, et en fait encore deux autres, sont présentes dans le livre. Voilà, c'est le passage où j'ai commencé à paniquer sur le temps et j'ai regardé derrière, j'ai dit oula. Bon, mais en fait, il y a effectivement, la liste est plus longue, j'avais cité que ce qui me paraissait les trois premiers. Mais oui, bien sûr, alors non sur le premier, oui sur deux autres. La proximité entre ces deux mondes, bon, en tout et pour tout, j'ai trouvé deux anecdotes, deux cas individuels. Un cas flagrant où carrément, de toute façon, il y avait un élu qui vantait le mérite, et puis c'était son beau-frère qui tenait la société qui produisait la vidéo. Bon, voilà, ça, c'est le cas extrême le plus évident. Voilà. Oui. J'ai essayé de gratter un peu plus globalement. Il faudrait des banques de données biographiques sur un tas de au cadre du privé que je connais pas, je ne sais pas si elles existent, et bon, je ne saurais pas répondre à ça. J'aurais tendance finalement à dire que je pense que le système n'a même pas besoin de ça, à mon sens, peut-être qu'il fonctionne. Parce que notamment, il y a encore d'autres motivations que je n'ai pas dites. Alors, d'abord, pour ce qui concerne les lieux ou établissements ouverts au public, il y a, depuis maintenant, en fait, une dizaine d'années, il y a, dans certains cas, une obligation de s'équiper un minimum en vidéosurveillance qui est posée par les assureurs dans les contrats d'assurance. Et dans certains cas, on voit des élus qui ont transposé en fait ça aussi aux caméras de voie publique, alors même que ce n'est pas du tout nécessaire. Première chose. Deuxièmement, localement, il y a un jeu important de pouvoir entre le maire, fondamentalement, et les représentants de l'État. Ça se voit de plein de fois. Alors ce jeu peut se jouer à l'amiable comme une bonne partie de cartes presque, ou il peut être beaucoup plus tendu, voire même il peut être une provocation généralisée, réciproque, c'est-à-dire qu'il y a qu'à voir la ville de Nice par exemple, où M. Strozzi dit la sécurité c'est moi, c'est pas le préfet, c'est un machin. Et d'ailleurs, votre numéro d'appel de police secours, je m'en tamponne, puisque moi je le fais reporti, et chaque citoyen va nous directement, donc l'actualité récente montre bien encore cette. Donc il y a des logiques de municipalisation de la sécurité. J'ai raconté ça dans un article qui porte sur les polices municipales, en fait, que j'ai publié dans Déviance et Société, qui est largement complémentaire de ce travail-là, d'ailleurs. Et ce qu'on voit bien dans certaines villes, c'est que la volonté d'avoir des caméras fait partie de, au fond, la stratégie d'affirmation de l'élu par rapport à l'État, et est fortement relayée derrière, en réalité, par un autre acteur qui n'est pas la police nationale de gendarmerie, c'est la police municipale. Et par des policiers municipaux qui sont en quête d'affirmation et qui voient dans le fait de créer cet outil que eux vont gérer un supplément de professionnalisation, d'affirmation et de montée en puissance dans cette histoire-là. Donc là, il y a une logique qui est effectivement assez forte face aux acteurs aux acteurs de l'État.
Merci.